Interview.
L'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Jean-Loup et Olivier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Baptiste.
On se fait encore une émission, Jean-Loup, pour continuer à filer cette thématique qu'on explore depuis déjà quelques mois ensemble, ouais. À savoir ce qui se passe en ce moment autour de cette pandémie Covid-19 et de toutes les restrictions de liberté qui vont avec. Et là, aujourd'hui, tu es venu avec deux livres. On va parler principalement de ces livres-là et puis profiter de l'expertise d'Olivier aussi, que tu as invité, pour filer un peu ce sujet. Alors, tiens, parle-nous déjà des deux livres que tu as ramenés, Jean-Loup.
Déjà, je vais dire que Olivier, c'est un copain d'enfance qui est, comme moi, Diwa depuis plusieurs générations. Donc, on est là, nous, pour parler de Diwa, et puis le reste, fuck it. OK? Sorry for my French.
Mais arrête ça. Avec ton anglais.
voilà, c'est ça. Non, et puis aussi, on a invité autour de la table des vrais paysans qui vont venir nous parler et dire leur point de vue, parce que la réalité de la Terre, c'est la réalité de la Terre. Donc, il ne faut pas plaisanter. Et puis, on va faire inviter aussi quelques petits Parisiens qui vont donner leur point de vue politique. Tu sais, ceux qui reçoivent tous leurs ordres des États-Unis et qui ne savent pas exactement où on en est. Bon, pour revenir à nos deux bouquins, je dis ici, à la librairie Mosaïque, il y a deux bouquins incontournables qui viennent de sortir. Je me suis régalé à les lire, je les recommande à tout le monde. Le premier, c'est celui de Didier Raoult qui s'appelle « Carnet de guerre Covid-19, le plus grand scandale sanitaire du 21e siècle ». Alors ça, c'est très important parce que c'est facile à lire. C'est, en fait, c'est un verbatim. Ça veut dire que c'est simplement le recopier mot pour mot de tout ce qu'il a dit dans toutes ses conférences et ses interviews et ses exposés qu'il a fait depuis un an. Donc depuis le début depuis le début de la crise, de cette crise, de cette épidémie, et non pas une pandémie, ça c'est encore quelque chose de fou. Depuis le début de cette épidémie, tout ce qu'il a dit est juste et est vérifié. Mais le gouvernement et les médias se sont régalés à prendre quelques phrases de ce qu'il a dit pour lui faire dire le contraire. C'est tellement facile. Donc là, on voit gros, mais gros comme une maison, tous les mensonges de ces mensonges en chef qu'on nous raconte constamment et qu'on continue de nous raconter tous les jours. Avant-hier, c'était Castex qui dit « Non, mais le vaccin AstraZeneca, c'est sûr. » Et le lendemain, il dit « Ah non, il n'est pas sûr, on le retire. » Non, mais on ne peut plus rien croire. On va vraiment plus rien croire.
Ça devient même drôle. Moi,
c'est une bouffonnerie. Ridicule, c'est une bouffonnerie, mais à partir du moment où maintenant on commence à tuer les personnes âgées et les enfants, et on utilise des armes de destruction massive aussi fortes que la fausse vaccination et la 5G, là, il faut vraiment réagir. C'est pour ça que j'ai dit à Olivier, je dis, viens, écoute, vraiment, il faut parler. On est obligé de parler. On est obligé de dire quelque chose. Je termine là-dessus. Tu donneras ton point de vue. C'est important que chacun donne le sien, parce que moi, j'ai un point de vue qui est ce qu'il est. Hein? Et voilà. Et donc après ce bouquin qui remet les points sur les i, eh bien, il y a un super bouquin qui est écrit par Edgar Morin et Pierre Rabhi. En fait, c'est un autre journaliste qui les a interviewés tous les deux. Le bouquin s'appelle « Frères d'âme ». Et en fait, c'est avec une gentillesse, un respect, une dignité de l'homme que Edgar Morin et Pierre Rabhi retracent tout ce qu'il faut faire. Premièrement, résister absolument, ça c'est clair, mais surtout reconstruire et reconstruire avec dignité dans la liberté de l'homme et la dignité de l'homme. Et ça, ce sont des propos qui sont très, très faciles à lire, très agréables. Alors vraiment, ça rajoute de la douceur. On n'est plus dans une bataille, on n'est plus en guerre, on est là pour reconstruire la paix. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est pour ça que l'un des livres ne va pas sans l'autre. Je crois qu'il faut vraiment les deux.
D'ailleurs, tu dirais que celui de Didier Raoult est plutôt lourd, dur, comparé à l'autre qui, du coup, éveille. Enfin, est-ce que tu les...
Non. Le premier, c'est il met les faits. La seule chose, c'est que c'est révoltant. Parce qu'on se dit, mais attends, mais vraiment, on nous a pris pour pire que pour des cons, quoi. Et puis, toutes les règles liberticides qui ne servent à rien. Le masque ne sert à rien, à rien, à rien. Les distances sanitaires, il faudrait que ce soit 200 mètres et pas 2 mètres. 200 mètres, il faudrait pour que ce soit une utilité. Mais il faut arrêter. Et ne parlons pas du confinement ou bien du couvre-feu qui provoque et augmente les risques de l'épidémie. Mmh. Et ça, c'est démontré, c'est prouvé. Mais bien entendu, étant donné qu'on coupe les...
Sans compter la vague psy qui risque d'arriver.
Mais la vague psy qui est prévue et qui est tout à fait normale. Mmh. Donc, on nous ment du début à la fin. Donc, à un moment donné, il faut dire arrêter, quoi. Il faut vraiment arrêter. Voilà.
Olivier ?
Moi, je m'excuse, je n'ai pas trop l'habitude de parler, donc j'espère que ça sera quand même compréhensible.
Moi, jusqu'ici, tout va bien.
Ce qui me chagrine dans toute cette histoire, c'est que pour moi, il n'y a rien de logique. Il y a absolument des mesures incohérentes. Comme disait Jean-Loup, le masque, est-ce qu'il est utile ? Alors peut-être dans les hôpitaux ou dans les endroits à risque, mais quoi qu'on peut se poser des questions, quand on voit dans les métros, par exemple, les photos qu'on a, c'est quand même assez étonnant. De garder une distanciation alors qu'ils sont tous entassés. J'avais trouvé dans un article assez intéressant, le monsieur disait « Tu peux acheter du vin, du whisky, mais pas de livres ni de jouets. Tu peux aller dans la forêt pour chasser, mais pas pour t'y balader. Tu peux aller dans les grands magasins avec plein de monde, mais pas dans les petits où il n'y a personne. Tu peux manger à la cantine, mais pas au restaurant. » Tu peux bosser 50 pendant 8 heures, mais pas être seul en plein air plus d'une heure. Tu peux être plus de 500 personnes dans le métro, mais pas 10 dans un cinéma. Donc, il y a des choses qui collent pas, quoi. Je peux pas admettre que d'un côté, on dise blanc et de l'autre côté, on dise noir. Et de même que par rapport aux scientifiques, est-ce qu'il faut croire une certaine Karine Lacombe ou est-ce qu'il faut croire un Perron ou un Raoul ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que n'importe quelle personne est un peu perdue devant ces affirmations qui sont pas logiques pour moi, ça c'est clair.
Alors sur quoi elles se baseraient ces affirmations selon vous?
Il y a peut-être une logique, mais qui n'est pas une logique sanitaire.
De ce que j'ai pu lire, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que le confinement ou le masque soit efficace. Autre exemple, c'est j'ai lu là qu'on mettait des masques aux enfants, aux bébés dès qu'ils naissaient. On met des masques aux enfants dans les écoles, alors qu'on prouve que quand on met un masque à la fin de la journée, sa saturation en oxygène a baissé de 10%. Je me dis à quoi on joue là. Et puis les effets collatéraux pour moi, c'est actuellement les plus dramatiques parce qu'on n'en parle pas. On vous donne le nombre de morts, de cas, de variants, de tout ce que vous voulez. Mais les effets collatéraux qui, pour moi, sont les dépressions, les violences aux femmes, les violences aux enfants parce qu'il y a confinement.
Pardon, est-ce qu'on pourrait mettre les pétages de plomb qu'on voit là en ce moment dans les cités un peu partout sur le même compte ?
Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je pense que les gens commencent à saturer. On leur a promis que ça irait mieux, ça ne va pas mieux. On les confine de plus en plus. On leur fait croire que ça va s'arrêter tel jour, mais que finalement, y a un variant qui arrive en plus. Alors, on va peut-être prolonger, puis on prolonge pas, puis on reprolonge. Donc, moi, je suis très sceptique sur ce qui se passe et quelle est la finalité de cette crise. Et qui, pour moi, n'est pas une pandémie. C'est un peu plus grave, peut-être, qu'une grippe, mais... J'en suis pas persuadé.
On dit pandémie parce qu'elle est un peu présente sur tout le globe, c'est pour ça.
Alors, pandémie, là encore, les différents gouvernements et l'OMS ont changé la donne, puisqu'une pandémie, normalement, c'est 150 décès pour 100 000 habitants. Et là, ils ont descendu à 50.
Pourquoi ?
Pour dire que c'est une pandémie.
Pour dire que c'est une pandémie, parce que ça justifie plein de choses. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment crever là, et voir effectivement ce qui se passe. Moi, il y a un site, et ça, je vais le mettre en référence sur l'interview. Il y a un site qui vaut vraiment le déplacement. C'est un site que j'ai visité déjà au début 2019. Ça fait depuis 2019. C'est le site deagle.com. C'est deagle.com. Et là, c'est quand même assez incroyable parce que c'est un site qui liste tout le potentiel, tout l'arsenal militaire mondial. Et également, ils ont fait une projection de la population mondiale de 2019 à 2025. Et là, c'est quand même vraiment incroyable. Je vous demande d'aller le voir. Vous tapez sur « countries », les pays. Après ça, vous tapez sur « switch to forecast 2015 ». Et là, vous apercevez que la France, qui comptait 67 millions d'habitants en 2019, eh bien, les projections, c'est qu'il y aura 39 millions d'habitants en 2025. Donc, ça veut dire qu'on va perdre 28 millions d'habitants qui vont mourir. Mais mourir comment ? Comment ? Alors, et bien sûr, il y a Macron qui dit « Ouais, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. » Attends, c'est qui ? C'est les Chinois qui attaquent ? C'est quoi ? C'est qui se bat et on se bat contre qui ? Où on va ? Mais il n'y a pas d'attaque. Mais l'attaque, maintenant, on commence à le voir. Et c'est écrit réellement. Et c'est, si on regarde le livre de Klaus Schwab, qui est la tête de Davos, mais lui, il l'écrit noir sur blanc. Il dit, c'est son livre s'appelle Le Grand Reset. Alors, il l'a écrit qu'en anglais, donc c'est la grande réinitialisation. Mais pour lui, il est très tranquille et ça ne le dérange pas. Il a l'impression que personne ne lit son bouquin, sauf les grands pontes, bien entendu, et que c'est normal, il va y avoir une disparition de 75% des restaurants et des cafés. Et surtout, le plus important, une réduction de la population mondiale qui va passer de 7 milliards à 500 millions. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Alors, ce qu'ils veulent, ils veulent le faire comment ? Ils veulent le faire vraiment en tuant les gens ? Alors maintenant, quand on voit des gens qui s'élèvent d'un petit peu partout et qui nous disent « Mais attention, c'est un faux vaccin, c'est une thérapie génique, c'est un truc dont on ne connaît pas les conséquences. » Et quand quelqu'un se fait vacciner, il génère des variants qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mortels, qui n'ont rien à voir avec le variant actuel. Donc actuellement, quelqu'un qui ne porte pas son masque, il ne crée pas de problème pour les autres. Mais quelqu'un qui se vaccine, lui, il prend un risque pour les autres. Alors il faut vraiment arrêter. Ça me met complètement hors de moi. Les gens disent « Ouais, mais tu ne penses pas aux autres ». Attends, si tu te fais vacciner, tu ne penses pas aux autres. Alors arrêtons les bêtises.
C'est prouvé, ça.
Regarde l'article de François qui est sorti hier soir. Regardez sur François. C'est des gens qui sont autrement plus crédible de toutes les façons que ce que nous dit le gouvernement. Il y a même un procès en Israël qui a été fait en disant un procès en attaquant le gouvernement israélien pour le non-respect des lois de Nuremberg, c'est-à-dire que la vaccination massive qui a été faite en Israël est considérée comme étant de la manipulation génétique, des essais génétiques sur les humains, ce qui n'est absolument pas acceptable. Moi je le dis haut et fort et je le répéterai, moi, me vacciner, jamais, mais jamais. Au moins, j'attendrai au moins 10 ans pour voir les résultats. C'est ce qu'il faut. Pour le cancer, on n'a jamais réussi à trouver de vaccin. Pour la grippe, on sait qu'elle ne marche pas. Chaque année, on en refait une autre. Et on veut nous faire vacciner pour un virus nouveau qui a été fabriqué dans un laboratoire. Mais attends, où on va ? Non, là vraiment, vraiment, il faut arrêter. Quelqu'un qui se vaccine, je dis à tous mes amis, mais réfléchissez trois fois, parce que les labos ont réussi à faire passer une loi comme quoi ils ne sont pas responsables des effets secondaires. Bravo. Alors, c'est qui est responsable ? C'est le gouvernement.
Mais qui est passé au niveau européen, ça.
Oui, bien sûr. Et qui est-ce qui va être responsable ? Ça va être le gouvernement. Mais qui est-ce qui va décider et juger s'il y a réellement un effet secondaire ? C'est le gouvernement. C'est facile. On est jugé parti. Donc, comment est-ce que le gouvernement et les gouvernants vont accepter de reconnaître qu'ils sont responsables? Bien sûr que non, ils ont trop peur pour leurs fesses. Non mais attends, c'est évident. Alors heureusement, maintenant, on commence à voir ça et là des présidents de la République et puis d'autres personnes qui sont traînées en justice. Mais là, tous ces gens, tous ces collabos, comme le dit Jean-Marie Bijard, et Jean-Marie Bijard, alors, il a fait un exposé sur François, je dis que ça, puis je relaisse la parole un peu aux autres, mais il a fait un exposé en disant « le problème qu'on a, c'est l'argent ». Alors lui, il a son franc-parler, hein, il dit carrément, il dit, si tu veux enculer quelqu'un, excuse-moi, je répète ce qu'il dit, hein, c'est lui, si tu veux enculer quelqu'un pour 5 000 $, il va pas vouloir. Mais si tu lui proposes 50 millions de dollars, à ce moment-là, il va dire, tu vas mettre de la vaseline, ça va durer qu'une demi-heure, tu vois, voilà, c'est facile. Donc là, effectivement, là, il s'exprime très clairement. Raoult, lui, il est plus clair, il dit, ce sont des montants inimaginables, etc. et autres. Mais actuellement, tu peux acheter n'importe qui, c'est facile. C'est facile.
Ouais, on aura cité du Bigard à l'antenne de RDI.
Voilà. Mais là, je crois que ça vaut l'écouter. Ça vaut le coup de l'écouter, Bigard. Parce que bon, moi, j'en pense. Mais c'est un type qui a un grand cœur. Et là, il le dit clairement. Il dit, quand il s'était présenté comme Coluche à la présidence de la République en tant que candidat, il a reçu des menaces de mort. Ça ne le dérangeait pas, je veux dire. Mais à un moment donné, il a commencé de recevoir des messages en disant, on sait où habitent tes enfants, on connaît leur adresse, etc. Là, il a dit, bon, moi, je joue plus à ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut dire. Quand on a les gardiens de la paix, a dit, ils sont impeccables. Mais quand on a des gendarmes qui viennent de l'autre bout du département, des petits jeunes qui sont complètement robotisés et qui nous disent, oh, vous, vos papiers, machin, votre masque, machin, etc. Je crois qu'il faut dire, non, attends, moi, je joue pas à ça. Je ne joue plus à ça. C'est clair. Moi, je joue plus. On est là, on est en train de jouer à la destruction de l'humanité. Il faut arrêter, quoi. Je me suis exprimé. Ouais, ça, c'est mon devoir. Voilà. Là, au moins, je suis clair avec ma conscience. Il faut dire ce qui est.
Et puis, ça te fait du bien.
Ah, voilà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, voilà. Je vais peut-être me faire tuer à la sortie par des collabos. Mais pas par les complotistes, mais ça ne fait rien.
Et puis, justement, des complotistes, tout ça, enfin, ces personnes-là, tous, mais Pierre Rabhi depuis des années, entre autres, sont pointés comme étant des personnes dont on ne devrait pas porter crédit sur leur parole. Comment est-ce que vous arrivez à défendre ça auprès de vos amis, de vos contacts, Olivier ? Quand on lit Raoult, forcément, c'est qu'on est un complotiste.
Moi, je dirais par rapport à Pierre Rabhi, je pense que tout le monde reconnaît quand même que c'est quelqu'un de, je dirais, de non-violent, qui prône la permaculture, qui prône le contact avec la nature, qui vivre dans un monde où c'est pas la guerre, où il n'y a pas d'animosité, on essaye d'éviter les pesticides, de polluer, etc. Je pense que Raoult, moi je l'admire parce qu'il a quand même, il ose contredire tout le discours officiel. Ce qui me chagrine encore dans cette crise, c'est que tous ces scientifiques, que ce soit Raoult, Perron, Toussaint, il y en a d'autres, dès qu'ils ont dit qu'ils étaient contre ou qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le discours officiel, alors tout de suite, on les traite de complotistes. Moi, il y a quelque chose qui ne peut pas... Si on n'a plus le droit, dans notre société actuelle, de dire ce qu'on pense, et quand on n'est plus d'accord, on est pris pour le dernier des imbéciles... Je peux pas aller dans ce sens-là, c'est pas possible. Petite réflexion, comme Jean-Loup, je me ferai jamais vacciner, ça c'est clair, parce que je pense que pour l'instant on n'a pas assez de recul. Je crois que il y a pas mal de médecins et d'infirmières aussi qui dans le personnel médical qui sont pas tout à fait pour non plus. Dans la population c'est pareil, ça inquiète le gouvernement parce que ils ont acheté des doses massives de vaccins ou commandés et que ils savent pas trop comment ils vont faire pour vacciner les personnes. On a vu ou lu hier qu'il allait y avoir des pompiers qui allaient être autorisés à vacciner les gens. Où sont les médecins ?
C'est pas une... En fait, elle est étonnante d'ailleurs, cette campagne de vaccination. On pourrait pointer qu'elle va lentement, mais est-ce qu'elle va lentement parce que les gens n'y participent pas ou est-ce que réellement il y a un défaut d'organisation s'ils ne sont même pas capables de vacciner ?
Je pense que les gens n'ont pas envie de se faire vacciner encore. Et Pfizer a bien dit que actuellement, tous les gens vaccinés jusqu'en 2023 servaient de cobayes. Ça a été dit. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Personnellement, quand vous faites pour sortir un médicament, pour sortir un vaccin, il faut du temps, entre 5-10 ans, suivant les discours. Là, tout d'un coup, on nous dit « Ah, ben là, on a trouvé la solution en un an ». Vous voyez ? Pour le vaccin ARNm, il y a une virologue épidémiologiste réputée qui fait foi dans son domaine, c'est Alexandra Henriot-Code, qui dit qu'il faut arrêter. C'est pas, elle ne considère pas ça comme un vaccin, elle considère ça comme une thérapie génique. Mais là encore, c'est pareil, on lit noir d'un côté, on lit blanc de l'autre. Alors, nous, en tant que scientifiques ou en tant que citoyens lambda, qu'est-ce qu'il faut qu'on pense ? Quelle attitude avoir ? Moi, j'avoue que je suis un peu sceptique. Concernant le vaccin, il y a aussi le fait, il n'y a pas longtemps, je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier, il y a quand même 7 pays qui ont arrêté le vaccin AstraZeneca pour se donner du temps. Bon, on peut se... Oui, ça laisse à réfléchir tout ça. Hein. Alors, pourquoi se précipiter sur quelque chose où même les autorités ne sont pas sûres de ce qu'elles avancent?
Oui, mais c'est pas qu'elles n'ont pas sûr, elles savent très bien, elles obéissent simplement à des ordres, hein, ça de toutes les façons, c'est clair. Parce que le fait que ce vaccin perturbe et détruit une partie de l'ADN, c'est prouvé, c'est démontré.
Enfin, c'est son objet d'aller travailler sur le message ARN.
Ça crée des désordres irrécupérables après, et pas que pour une génération, pour toutes les générations qui suivent. Donc effectivement, si on est dans une optique...
C'est pour ça qu'on ne fait que les vieux, ce qu'ils ne peuvent plus se reproduire, non ?
Non, on ne fait que les vieux d'abord parce
que là... J'ai fait du bigard sans faire exprès.
On ne fait que les vieux d'abord parce que c'est pratique, parce que s'ils meurent, il y a tous les facteurs de comorbidité, alors à ce moment-là, on va les mettre en avant. Alors on va dire, non, ce n'est pas la vaccination, non, c'est les facteurs de comorbidité. Ils devaient mourir de toutes les façons. C'est pour ça qu'on commence par les vieux. Et le plus dur, c'est que c'est toujours qu'une manipulation. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas d'informations. Ils cherchent à savoir comment faire passer l'information. Rappelle-toi quand même quelque chose d'important, c'est que le gouvernement fait appel à une société qui s'appelle BVA, qui est spécialisée dans le nudging. NUDGING. Et ça, c'est comment fabriquer un consentement. Donc, toutes les annonces qui sont faites par le gouvernement, à chaque fois qu'on nous parle de vaccination, on nous martèle la vaccination, oui, les labos ne veulent pas livrer, on va parler des problèmes de livraison, des problèmes de priorité, mais personne ne nous parle de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ce n'est pas dangereux. Donc, on noie le poisson. Est-ce qu'on a besoin d'un vaccin qui n'a aucun bénéfice-risque et qui a des risques hyper importants pour cette génération et pour les autres. Si on est dans une optique de dépeupler le monde, alors oui, c'est justifié. Là, il faut le faire absolument. Ça, c'est clair. Et tous les moyens sont bons. Là, tous les moyens sont bons.
C'est paradoxal parce que les virus, c'est un peu leur objectif, normalement, de dépeupler.
Ben, les virus, ils ont une vie, ce sont des êtres vivants, hein, c'est tout. Hein. Le virus, bon, là, on...
Oui, non, mais ils ne calculent pas, c'est ce que je veux dire.
Non, mais là...
En général, les fortes concentrations d'animaux, de populations, génèrent, pourquoi pas, des concentrations de virus et donc permettent, d'une certaine manière, voilà, je l'ai dit de manière un peu triviale, mais...
Alors moi, j'ai une réflexion à faire quand même là, parce que il faut savoir que si on n'était pas baigné ou couvert de virus, de bactéries, de champignons, on serait mort.
Oui, il y en a plein très utiles.
Ce sont nos amis. Ah mais ouais. Ils sont tous utiles. Ils sont tous, il n'y en a pas un qui est mauvais. C'est comme les mauvaises herbes. Est-ce qu'une mauvaise herbe, ça existe ? Elle pousse là où elle peut pousser, c'est tout. Mais
elle pousse pour de très bonnes raisons à cet
endroit-là. Pour de très bonnes raisons, voilà.
C'est surtout ça.
Donc, il n'y a pas de virus méchant, pour moi. Il y a des mauvais terrains. Et il y a deux personnages que je connais un petit peu, mais un qui est inconnu en France, c'est un certain Antoine Béchamp. Alors, qui connaît Antoine Béchamp ? J'aimerais bien faire une statistique pour savoir qui peut me dire qui est Antoine Béchamp. Eh bien, Antoine Béchamp, il a vécu du temps de Pasteur. Il était plus diplômé que Pasteur. Et c'était le concurrent de Pasteur, à l'époque. Et Pasteur disait « le virus est tout ». Et Béchamp disait « le terrain est tout ». Et je pense que c'est Béchamp qui a raison. Et Pasteur l'a reconnu à sa mort, paraît-il.
Oui.
Voilà. Donc, on fait la guerre au virus. On veut tout stériliser, on veut tout aseptiser. Je pense que ce n'est pas la solution, loin de là. Et pour moi, bah oui, le virus, il est ce qu'il est. Bah, de toute façon, il va vivre sa vie, comme tout le monde, dans ce monde vivant. Et qu'un jour ou l'autre, bah, il va disparaître, on le sait. Toutes les virologies, ça monte, ça descend, ça monte. C'est ce qu'a expliqué Raoul dans son bouquin et à la radio. Donc, pourquoi avoir peur pourquoi avoir peur d'un virus? Je suis pas persuadé. Si, pourquoi avoir peur? C'est parce que on nous a fait peur.
Mais oui, il faut avoir
peur. On nous a fait peur. On nous donne tous les jours les morts par les morts et le nombre de lits de réanimation occupés.
Mais cette question de la pasteurisation, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est quand même vraiment aseptiser tout, être sûr qu'il n'y ait plus aucune bactérie vivante, le lait UHT, enfin bon, ça va très très loin tout ça, ne vient jamais modifier le terrain, puisque la bouffe est de plus en plus industrielle, de moins en moins naturelle, enfin bon, donc finalement, on se mord la queue.
Là, encore une fois, dans les deux bouquins, ce dont on parle et ce dont le gouvernement ne parle jamais, mais jamais, c'est que si on veut réellement s'occuper de la santé, la première chose qu'on fait, c'est le système immunitaire. Et là, travailler sur le système immunitaire, mais personne n'en parle officiellement. Donc là, en fait, c'est tout le bouquin de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est ce qu'il dit. Il dit effectivement, comme tu le disais, Olivier, il n'y a pas de mauvaise herbe, il y a un terrain. Et puis, on travaille avec le terrain, on modifie le terrain et on avance. Et à ce moment-là, si on observe les choses correctement, mais faire un retour à la terre, c'est très important parce qu'on n'arrache pas une herbe qu'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Mais dans l'industrie, on ne peut pas licencier aussi quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça fait partie des choses qu'il y a. Et on n'est pas en train de lutter contre dans toute l'approche biologique, dans l'approche écologique qui existe. On n'est jamais en train de lutter contre. Alors que dans le business, on est toujours en train de lutter contre. Et on ne respecte pas du tout les 500. S'il n'y a qu'un seul truc, c'est profit et puis profit et illimité. Et puis c'est tout. Profit illimité. Et ça, c'est la création de cancer. C'est le cancer de la société. Quand il n'y a plus de limite, la cellule n'a plus de limite, elle se multiplie à l'infini. C'est ça, le cancer. Mais là, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ont des sommes d'argent inconsidérables. Ils ne savent plus. Ils tuent tout le monde. Ils ne sont pas capables d'utiliser l'argent.
Ils font des tas.
Ben oui. Donc là, on est vraiment à un changement très, très important de société. Et toutes les démarches qui sont faites actuellement sont des démarches qui ont une logique, mais une logique de business, de prise de pouvoir, d'augmentation du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. C'est tout. C'est ça, cette logique, elle est réelle. Les masques, ça a rapporté un argent fou. Et alors maintenant, on leur dit, attends, mais tous les masques que vous avez achetés, vous en avez acheté en avance, très bien. Ils ne valent rien, on va vous en mettre un deuxième. Moi, j'ai vu des gens aux États-Unis qui mettent deux masques l'un sur l'autre.
Mais c'est ça, c'est que les masques tissus, maintenant, sont plus recommandés. Oui.
Voilà. Le masque de un dixième de millimètre, on va mettre deux masques d'un dixième de millimètre, alors que le virus fait un nanomètre. Faut vraiment nous prendre pour des cons. Mais le matraquage manipulatoire marche. La société BVA, avec son nudging, elle marche impeccable. Et le premier confinement, il ne faut pas l'oublier, le premier déconfinement, il a été géré par une société américaine qui s'appelle Bain & Company. Et le représentant de cette société, c'était Castex. Il a fait un tellement bon travail qu'il a été nommé Premier ministre. Et maintenant, il continue. Moi, je me permets de dire ce que je pense, mais je dis qu'il continue d'obéir aux ordres. Donc, c'est clair. La société Bain & Company, elle est fanatique du système chinois, exactement comme BlackRock. Pareil. Donc on est là, on est en plein dedans. Donc où on va? On se demande.
Pour revenir sur le virus, si vraiment il y a un problème avec un virus, si c'est pas le terrain qui est en cause, on doit tous être malades quand il y a un virus. Or, jusqu'à maintenant, que ce soit la grippe, que ce soit n'importe quoi, tout le monde n'est pas malade quand il y a un virus qui se balade ou quand il y a une bactérie qui se balade. Donc c'est vraiment le terrain. Et le terrain, il va être influencé par quoi? Par le stress, par la bouffe et par la pollution. Je dirais, pour moi, c'est les trois éléments majeurs dans notre société qui vont jouer sur le terrain. Et là, il faut que, si on veut vraiment être efficace sur un plan médical, ben, oui, je pense qu'il faut revoir tout le système favoriser une meilleure alimentation, pour favoriser, éviter la pollution et surtout éviter ce stress. Ce stress, pour moi, c'est...
Ouais, c'est le numéro un.
C'est le numéro un. Ouais.
Donc là, c'est là que retour à la nature, comme le proposent Pierre Rabhi et puis Edgar Morin, retrouver cette réalité de la vie, retrouver cette alimentation en dehors de tous les systèmes financiers,
c'est vraiment la voie qui est ouverte à nous. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on va aller dépenser de l'argent dans un hypermarché alors qu'il y a, des kilomètres carrés de self-service complètement libres qui vont nous nourrir remarquablement. En ce moment, il y a plein de choses. Les gens qui viennent chez moi se régalent avec la cardamine. Cardamine, c'est une toute petite plante gratuite, mais qui a un goût absolument fabuleux. Bon, tout ce que l'on a, on peut le trouver. La vitamine C avec les églantiers, Le zinc dont on nous parle, toujours on dit ah non, le zinc on ne trouve pas, mais le zinc on le trouve dans le topinambour. Le topinambour il est extraordinaire et c'est pas cher du tout, c'est vraiment pas
ça
cher.
Ça va nous rappeler la guerre, tu te rends pas compte?
Mais voilà le problème. Nous sommes en guerre.
Ça tombe bien,
donc,
ça tombe bien.
Tu vois, il faut y aller. Tout le monde devrait planter des pissenlits, des topinambours et un certain nombre de plantes comme ça sans problème. Tout le monde devrait réapprendre qu'en ce moment il y a des violettes et des primes vertes, ça se mange et c'est délicieux. Les pâquerettes, c'est délicieux. Tout ça, il faut réapprendre à trouver tout ce qu'il y a et faire des salades qui sont fabuleuses. Moi, chez moi, je fais que ça. Lorsque les gens viennent, il y a entre 10 et 20 éléments que j'ai cueillis une heure avant. Je ne suis pas allé faire mes courses une heure avant en respectant les horaires d'ouverture de l'hypermarché. Non, les gens viennent me voir et bien une heure avant, je prépare quelque chose pour eux.
Donc ce que vous nous dites là, c'est qu'en fait, on est en guerre, mais contre le capitalisme encore et toujours. Ça doit faire 40 ans, moi, depuis que je vis, j'ai entendu parler ça.
Ben oui, mais le capitalisme, il est bien mort maintenant.
Il continue à vendre des masques en tout cas.
Ah bah oui, parce que les gens acceptent de le faire. C'est, les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Il faut toujours penser à ça. Donc quelqu'un donne un ordre, il dit mais pourquoi je vais respecter son ordre? Pierre Rabhi dans son bouquin, il dit regardez les choses correctement. Le système dans lequel on est, les emplois, quelqu'un qui est employé, c'est un esclave. On est dans un système d'esclavage. On respecte pas les gens. Donc il faut sortir de ce système d'esclavage. Il dit une phrase très très belle dessus dans son livre. Il dit voilà, je revenais du travail avec quelqu'un et puis sur le chemin, d'un seul coup, dans le champ, il y avait un chêne absolument magnifique qui se dégageait, qui se découpait dans le soleil couchant, des oiseaux qui tournaient autour. C'était quelque chose de fabuleux. Donc il s'est arrêté, il avait le souple coupé. Et il regarde ça et puis il dit à son ami, il dit tu as vu ce chêne? Et lui, qui n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, il dit « Ah oui, hein, au moins 10 terres !» Tu vois ? Non mais ça, c'est... Alors, il a plein d'histoires comme ça dans son livre, en disant ben, « On a deux manières de voir la vie. On regarde la vie ou on regarde la destruction de la vie constamment. C'est, si tout est business, quoi. Il n'y a pas un moment, quoi. » Alors que ce chêne, c'était un cadeau qui lui était offert pour arriver à se ressourcer, se retrouver lui-même, quoi. C'est ça qu'il faut voir.
Changer de paradigme. T'as pris plein de notes là. Parce t'as un complice derrière qui écrit pour toi. Qu'est-ce que vous avez écrit?
Non, mais je marque quand j'ai des idées qui me reviennent. Ouais. Par rapport au capitalisme, bon, on parle beaucoup de Bill Gates actuellement. Moi, ce qui m'a quand même étonné, une des premières choses que j'ai appris sur lui il n'y a pas longtemps, c'est qu'il finançait, alors je ne sais pas le chiffre exact, si c'est 25 ou 50% l'OMS.
Bien sûr.
Donc il y a quelque chose. Un organisme mondial qui est financé pour un quart, voire la moitié, par un privé. Est-ce qu'on peut avoir encore confiance dans l'OMS? Parce qu'il donne d'un côté, mais comme il a des sous dans les laboratoires, et que l'OMS vous dit qu'il faut vacciner tout le monde, donc 7 milliards de vaccins, il va récupérer combien derrière notre ami Bill? Ça me donne des frissons tout ça. C'est pas possible que quelqu'un comme ça puisse être quelque part entre guillemets honnête. Je peux pas. Quelle est sa finalité à lui? On peut la deviner, mais
c'est son père qui a construit. C'est Bill Gates senior qui lui a construit. C'était un juriste et il a construit. Il est mort il y a pas longtemps. Il y a quelques mois, il est mort simplement. Et donc c'est lui qui a construit Microsoft, qui a construit tout ça, et c'est lui qui a poussé son fils pour dire je veux être le père de l'homme le plus riche du monde, le plus puissant du monde. Et donc lui, son objectif, c'est effectivement la vaccination mondiale. Ça c'est le truc. Ils ont fait des essais aux États-Unis, ils ont fait des essais dans plein de pays. Maintenant l'Afrique du Sud, étant donné que Nelson Mandela n'est plus là, ils se sont fait avoir. Et puis c'est pareil, ils ont vacciné toute une ethnie dont ils voulaient se séparer tranquillement. Et puis vas-y. Et non mais attends, c'est fou quoi. Tous les labos se précipitent sur le vaccin parce que c'est une manne extraordinaire. C'est un coup où on va gagner de l'argent en pagaille. Et puis tout ce qu'on veut maintenant, c'est qu'ils sont persuadés, je veux dire, qu'avec les robots, ils peuvent se passer des gens maintenant. Donc il y a les gens inutiles. Donc un Palestinien, c'est vraiment inutile. Un Yéménite, c'est inutile. Un ouvrier sans qualification, c'est inutile. Donc voilà, donc maintenant, on va tout remplacer ça par des robots. Ben non, c'est pas possible. Il y a de la place pour tout le monde. On peut tous manger, on peut tous vivre correctement. Et ça, c'est pas juste du tout.
Alors, je rajouterais aussi une chose, c'est que est-ce que cette pandémie, elle n'était pas programmée? Il y a plusieurs articles qui peuvent pencher là-dessus, mais je sais que le plus grand fabricant de flacons pour vaccins a quand même investi 1 milliard en 2019. Donc il était au courant qu'il y avait une pandémie qui allait arriver et qu'il allait y avoir beaucoup de vaccins à fabriquer.
Et là, sur certains réseaux, on le voit d'ailleurs, les commandes j'ai les mots qui me viennent en anglais parce que j'ai les informations qui viennent surtout par mes amis qui sont de l'autre côté. Les commandes de cercueils qui ont été faites en plastique petit, etc., qui ont été faites par millions. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu une commande aussi importante qui a été faite? Donc, il y a vraiment une prévision, comme je l'ai dit, qui a été écrite sur l'abaissement de la population. Parce que j'ai parlé de l'abaissement de la population en France, mais aux États-Unis, c'est 2 sur 3 qui vont mourir avant 2025. Si on se laisse faire, si on ne résiste pas, si on continue de croire à l'argent, si on continue d'avoir ce simple système qui est le système financier. Il faut bien voir que dans le système financier, la guerre, c'est ce qui est le plus rentable. C'est ce qui est le plus rentable, la guerre. Donc, dès qu'il y a de la guerre, on se bat, c'est bien. On va détruire, mais moi, j'en ai vraiment marre. À chaque fois que je vois quelqu'un, je dis, attends, tu veux faire la guerre, d'accord. Ben alors, va d'abord passer une semaine en Irak, en Syrie, dans un pays. Va soigner des gens qui ont subi la guerre. Va soigner leurs peines, va régler leurs problèmes familiaux, va reconstruire leur maison avec eux. Et après, tu pourras utiliser ton pistolet ou ta matraque ou quelque chose. Va voir un petit peu les conséquences de toutes ces guerres. Il y en a marre, quoi. C'est pas possible.
Les écologistes échevelés pourraient dire que ça va être bien pour la biodiversité qu'il y ait moins d'humains quand même sur Terre.
Ah oui, mais le matraquage médiatique, il marche très bien. Tu vois, matraquage médiatique, il marche très bien.
C'est pas mon matraquage médiatique, c'est plutôt de me dire que quand même, on pourrit tout, ça ferait de la place. Qu'est-ce qu'il faut sauver de l'humanité, au fond?
Moi, je crois beaucoup à cette conscience de l'humain qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Moi, je prends l'exemple de la Chine et de Taïwan. La Chine, ils sont trop, donc ils ont imposé l'enfant unique, d'accord?
Puis ils sont revenus dessus.
Et ils sont revenus dessus, oui, mais attends. À Taïwan, ils ne l'ont pas imposé. Et Taïwan, ça a le plus faible taux de natalité du monde. Pourquoi? Alors qu'ils ont le droit d'en avoir autant qu'ils veulent. C'est parce que ce n'est pas justifié. C'est parce qu'ils vivent autrement. Et parce que les hommes et la femme qui sont là-bas ont eu la conscience de dire « Ben non, ce n'est pas le moment de faire un enfant. » C'est tout. Les choses se règlent d'elles-mêmes. Moi, j'y crois beaucoup. Il y a une évolution de la conscience du monde qui est en train de se faire et qui est fabuleuse. Et encore une fois, la dernière chose que je fais, moi, c'est juger les gens pour leur comportement, pour ce qu'ils ont eu. Je dis actuellement, ce n'est pas acceptable, mais je ne veux juger personne. Je veux me battre contre personne. Parce que tout est fait pour nous battre. Alors on va se battre entre collabos et puis conspirationnistes, entre peureux et inconscients, entre tout ce que tu veux. On n'est pas là pour se battre entre nous. Et on n'est pas là pour se juger sur les erreurs passées. C'est normal de faire des erreurs. Moi, j'en ai fait des milliers, hein, des millions. Mais il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreurs. Que ceux qui ne parlent pas, qui ne disent pas de conneries. Voilà.
Et je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, je pense que oui, on divise la population. On fait en sorte qu'on... Alors, comme on dit, diviser pour mieux régner, je pense que c'est un petit peu ce qu'on observe, parce que moi, je vois, que ce soit dans les différentes familles, la mienne aussi, quand on commence à aborder certains sujets, ça devient un peu chaud. On ne peut pas accepter que l'autre puisse penser autrement. Il y en a qui sont très branchés sur le scientifique. Il faut que ce soit prouvé scientifiquement. Or, maintenant, on sait que vous avez la physique quantique. Et là, on est sur de l'information, sur de l'énergie. Et pour le prouver, ça devient très compliqué. Mais à côté de ça, moi, je connais des homéopathes qui soignent le Covid par homéopathie. ils ont des résultats. Alors pourquoi est-ce qu'on... Et pourquoi là, tout d'un coup, on... Enfin, tout d'un coup, non. Ça fait un an ou deux ans qu'on a demandé à interdire... interdire l'homéopathie ou dire que c'est pas ça, ça sert à rien. C'est pas parce qu'il y a plus de molécules soi-disant qu'il y a pas de il y a pas d'effet. Il y a ce qu'on appelle une information. L'eau garde une information. Il y a un spécialiste au Luxembourg, c'est Marc Henry, pas au Luxembourg, à Strasbourg, où, c'est dans le Nord. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur l'eau et il dit on n'a toujours pas compris cette molécule. On sait pas ce qui se passe. Mais quand même, s'il n'y avait pas d'eau, on serait mort. Mmh. Et l'eau, elle permet de transporter de l'information simplement. On n'est pas, il ne faut pas croire que tout se résume à de la chimie et qu'on va tout résoudre par de la chimie.
On a la chance, a dit, d'avoir des vrais médecins et des gens qui sont dans l'écoute. Et ce sont les médecins qui doivent nous aider à parler de la santé. Les médecins et les agriculteurs aussi qui connaissent la terre, qui connaissent ça. Ce sont eux, ce n'est pas le gouvernement qui va nous dire. Mais lorsque le gouvernement nous déconseille d'aller voir le médecin en nous demandant de prendre du paracétamol, dont on sait que c'est une molécule qui crée des problèmes irréversibles du foie, c'est une molécule qui est grave, elle ne devrait pas avoir d'AMM, le paracétamol, Doliprane et autres, elle ne devrait jamais vendre ça. Mais bon, et on nous pousse à faire ça et à rester chez nous, plutôt que de sortir, de se reconstruire, d'aller discuter avec notre médecin. Mais c'est complètement fou. Et Jean-Marie Bigard, il l'a dit clairement dans son interview, il a dit, moi, c'est Macron qui m'a appelé, parce que les grands influenceurs... Là, on envoie l'ambassadeur numéro un. Alors, Blackrock, il lui dit, hey, you, go there, go and see Raoult, go and see Bigard and make it. C'est ça, donc il faut y aller. Et donc, Macron, il est allé voir Bigard. Il lui a dit, mais je vous écoute beaucoup, je vous aime beaucoup, je suis tout ça, etc. Et donc, Bigard, il s'en prend parler, il lui dit, dites-moi, vous voyez, je crois. Il lui dit, si vous avez le Covid, vous ferez le traitement du professeur Raoult? Il a dit, bien sûr, tout de suite. Bien sûr, mais c'est évident. Mais alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas reconnaître qu'il y a un traitement? Il y a ça, il y a l'ivermectine, il y a des
traitements. C'était pour être populiste, la réponse.
Peut-être, mais...
Oui, je vais le faire, bien sûr.
Ouais. Mais en tout cas, de toutes les façons, pourquoi est-ce que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a des traitements qui marchent, alors que c'est indiscutable, hein? Alors, je rappelle le livre du docteur Raoult, c'est le plus grand scandale sanitaire du 21e siècle. Les plus grands mensonges du monde.
Bah, c'était justement la question que je voulais poser, parce qu'on a parlé beaucoup du vaccin, mais on a... Y a-t-il un traitement? Est-ce qu'on a le temps de chercher ce traitement? Pourquoi ne parlons pas de traitement?
La raison pour laquelle on ne parle pas de traitement et on ne veut pas reconnaître un traitement, c'est parce qu'il y a quand même une loi internationale, c'est qu'on ne peut pas promouvoir une vaccination s'il y a un traitement. Et donc c'est pour ça que les gouvernements ne veulent pas et se battront jusqu'au bout pour refuser... que reconnaître qu'un traitement marche. Mais alors, tous les moyens sont bons, mais là, c'est rouleau compresseur. Ça, c'est impératif. Mmh. Alors qu'on a des gens qui nous défendent, comme Michel Rivasi. Michel Rivasi, quand même, c'est comme notre députée.
Députée européenne.
Elle s'est vraiment, vraiment bien battue. Et là, c'est la seule qui a porté plainte contre le gouvernement en disant, non mais attendez, vous avez dépensé 900 millions d'euros pour acheter le Remdesivir, alors que trois jours après, on nous dit non, c'est toxique. Maintenant, le Remdesivir et tous les médecins reçoivent les IHU reçoivent des propositions d'utiliser Remdesivir gratuitement, alors que c'est un médicament qui crée des variants. C'est comme la vaccination, c'est une arme de destruction massive, ce truc. Non, mais attends, mais il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. Donc, elle demande le remboursement de ça et le remboursement des doses de vaccins qui ont été achetées pour rien. Je rappelle quand même que Michèle Rivasi, elle a un doctorat de biologie, elle sait de quoi elle parle. Donc... ça, c'est pas rien.
Concernant Michel Rivasi, je sais qu'à l'Assemblée, il y a eu une commission qui a été créée et ils ont demandé à voir les contrats des différents laboratoires. Et que,
à l'Europe, c'est ça. Ouais. Ouais.
Et que ça a été très compliqué, qu'ils ont réussi à obtenir certains documents. Ils ont eu trois quarts d'heure.
Documents rayés, noircis.
Voilà.
Ouais.
Ils ont eu trois quarts d'heure devant eux. Sans spécialiste juridique ou quoi que ce soit. Et je dirais, il y avait 9 dixièmes des pages qui étaient biffées en noir. Donc, les effets secondaires, les posologies, ce que contenait le vaccin, Niet, impossible de savoir ce qu'il y a dedans. Les laboratoires disent toujours que c'est un secret professionnel, on ne révèle pas les... oui, mais quand il y a danger, il faudrait qu'on sache un petit peu ce qu'il y a dedans, quoi. Et moi, j'ai souvent entendu parler de certaines personnes qui disaient « Tant que vous savez, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, ne vous faites pas vacciner. Demandez ce qu'il y a dans un vaccin. »
Et vérifiez.
Parce que là, dans un vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais n'empêche que vous avez un professeur fourtillant qui vous dit qu'il y a... Et puis, Tal Chalère, qui vous dit il y a 250 molécules dedans. C'est quoi, c'est quoi qu'on met dedans, là? C'est quoi ce cocktail qu'on nous injecte et contre lequel on ne peut plus rien? Vous avez un médicament, on peut trouver encore un antidote. Mais vous, contre un vaccin qu'on vous injecte tout la peau, on fait quoi?
C'est trop tard.
C'est trop tard.
On arrive bientôt à la fin de ces 50 minutes. Le temps imparti. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire là maintenant? Parce que vous êtes des lanceurs d'alerte, hein, je le dis à chaque fois. C'est bien, la population peut continuer à aller se renseigner, écouter, entendre ce qui est dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est clair.
Selon vous.
C'est clair. Il faut se rencontrer, il faut parler, il faut surtout plus porter le masque. Surtout se rencontrer, se réunir entre nous, chez les uns, chez les autres, sortir dehors, sortir le plus possible, sortir au soleil, aller à l'extérieur. Le soleil, indispensable pour la vitamine D, ça c'est très très important. Le zinc, comme je l'ai dit, il y a les topinambours, il y a aussi aller manger avec Marc et Béatrice sur le parking du Super U et des huîtres. Moi j'ai fait ce matin, j'ai mangé 3 huîtres pour 3 euros, au lieu de prendre 3 cafés, je prends 3 huîtres. Et là, tu as une dose de zinc. Ah, ouais, c'est fabuleux. Bah, tu le fais à 11h. Tu le fais à 11h. Non, c'est à la place du café, je dis. À la place du café, tu vois. C'est pour l'apéro, tu le fais tranquillement.
Les huîtres au café. Mais
si tremper ces huîtres
si
dans
tu
le
veux,
café.
Si tu veux faire mieux, tu peux faire du topinambour. Le topinambour, encore. Le topinambour, je rappelle, parce que pour la petite blague, c'est marrant, parce que la plupart des gens ne veulent pas de topinambour. S'ils disent, attends, les topinambours, ça donne des flatulences. Alors, je veux dire, si ça donne des flatulences, là, peut-être, c'est la seule raison pour laquelle le masque et la distanciation sociale est justifiée. Ça, c'est clair. Ça, c'est la seule raison. Mais si ça donne des flatulences, c'est pas pour rien. C'est parce que notre microbiote n'est pas équilibré. Parce que ceux qui ont un microbiote équilibré, ça leur donne pas ou pratiquement pas de flatulences. Et les flatulences sont utiles parce qu'elles poussent les excréments vers la sortie. Donc, c'est un truc qui est excellent pour le tube digestif. Donc, tout ça, c'est important. Mais ce que je dis surtout, c'est qu'on se réunisse entre nous, qu'on se parle, qu'on se hug, qu'on se touche, qu'on s'embrasse, qu'il y ait une communication. C'est comme ça, et le professeur Raoult en parle très clairement, c'est comme ça qu'on crée une immunité. Quand j'étais petit, quand un enfant avait la rougeole, tout le monde allait chez lui, parce qu'on savait très bien que si on attrapait la rougeole, on était vacciné à vie. Alors que ceux qui ne l'avaient pas eu, eh ben on les vaccinait parce qu'on dit que c'est un peu dangereux si on a la rougeole plus tard, au moment de la puberté ou d'autres choses. Donc là, actuellement, toute la population française, elle est déjà, entre guillemets, immunisée par rapport au premier Covid. Mais là, maintenant, on crée des mutants avec ce remdesivir et avec cette vaccination. Donc, rebelote. Donc, attends, où on va? Donc, il faut, au contraire, se voir et arrêter d'avoir peur, couper la télévision complètement, n'écouter que Radio Diwa, et puis lire ces deux livres que je recommande très, très sérieusement, parce que vraiment, ça donne du baume au cœur. On n'en a pas beaucoup parlé, je suis désolé, mais c'est vrai que la solution, c'est plus importante. Et les paroles de sagesse de Edgar Morin et de Pierre Rabhi sont fabuleuses. Je te laisse le mot de la fin.
Il faut se réveiller. Il faut admettre que ce qu'on nous dit, c'est pas toujours vrai. C'est peut-être pas facile à admettre, mais je crois qu'il faut quand même se réveiller. Je regarde plus beaucoup la télé en ce moment, mais je vois qu'il y a quand même des publicités qui me font hérisser le poil. Quand on voit cette mamie qui est la première publicité, c'est la mamie avec toute sa famille qui souhaite son anniversaire. Et puis dans la seconde après, on la voit en réanimation. C'est quoi cette publicité? On culpabilise.
Ah oui, la propagande du ministère de la Santé.
On culpabilise, voilà, la famille de faire mourir la grand-mère. Mais la grand-mère, si elle ne voit plus ses petits-enfants, mais elle va en mourir encore plus.
C'est beaucoup plus grave.
C'est encore plus grave.
Autant que ça, on arrive à le prouver, d'ailleurs, là.
Mais bien sûr. Et puis la deuxième, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, on voit la mamie assise sur son canapé. Elle voit rentrer ses petits-enfants. Les petits-enfants au ralenti, qui sont contents, qui sautent de joie, qui arrivent. Hop. Et puis, tout d'un coup, on change de vue et on voit la mamie qui est en train de se faire vacciner. Et puis ensuite, c'est marqué, même si vous êtes vacciné, eh ben, il faudra porter le masque, il faudra mesure barrière. Donc en plus, ils nous mentent. Parce que elle, en allant se faire vacciner, elle va croire qu'elle va pouvoir avoir ses petits-enfants. Mais non, parce que quand vous êtes vacciné, il faut continuer le masque et les mesures barrières. Donc c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas là. Donc se réveiller, faire une désobéissance civique, non violente. Et je terminerai avec une petite citation, alors je ne sais pas de qui elle est. Vous croyez qu'en désobéissant, ça va s'arrêter, c'est parce que vous obéissez que ça continue.
Merci Olivier, merci Jean-Loup.
Merci.
Merci Baptiste.
Interview. Okay, the bird. L'interview du jour.